Bien souvent, on se plaint qu'il y a des gens qui sont croyants, mais qui ne sont pas pratiquants. Ce qui n'est pas votre cas, puisque nous nous retrouvons ensemble pour célébrer le Seigneur. Mais il me semble que c'est plutôt l'inverse. Dans nos sociétés sécularisées, où on met Dieu de côté, il y a beaucoup de pratiquants, mais peu de croyants. Beaucoup de pratiquants, c'est-à-dire de personnes qui ont assimilé l'Évangile. Et c'est vrai qu'en cette terre de France et en cette terre d'Europe, l'Évangile a été, un peu comme à la manière d'un thé qui se diffuse dans une tasse, a été assimilé par les peuples. Et les valeurs évangéliques sont des valeurs qui sont devenues même une loi, le respect de la personne, le respect du plus petit, la tâche au plus faible, etc. C'est pratiquement devenu quelque chose de courant, même si on a oublié la raison d'être de ces valeurs chrétiennes. Mais il y a beaucoup de gens pratiquants qui pratiquent l'Évangile, qui pratiquent l'amour du prochain, mais qui ne croient pas en Dieu. Comment faire ? Quelle attitude avoir avec ces personnes-là qui font le bien, qui font le bien, parce que l'Esprit Saint repose sur qui il veut. On a vu dans la première lecture, vous avez entendu, hein, c'était dans le camp où il y avait Moïse, etc. Et Dieu d'abord a choisi Moïse, ensuite Dieu a choisi 70 personnes pour annoncer, prophétiser. Puis il a choisi deux autres personnes en plus, de façon impromptue, qui prophétisent aussi dans le camp, mais qui ne font pas partie des 70 qui ont été choisis par Moïse. Bon, et puis, et ça c'est toujours comme ça, que les gens qui font le bien, nous nous disons que l'Esprit du Seigneur, nous comme croyants, nous disons que l'Esprit du Seigneur travaille en eux. Et c'est important que nous ayons cette attitude, et non pas une attitude d'exclusion, comme on le voit avec les apôtres. Oui, est-ce qu'on va ? Il n'est pas des nôtres. Il est peut-être, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas de ceux qui te suivent, et il expulse les démons. Est-ce qu'on doit l'en empêcher ? Eh bien, Jésus dit très clairement : celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Eh bien, ça veut dire que nous, comme c'est important que nous ayons un regard peut-être différent sur ceux qui, appartenant à une autre tradition religieuse ou n'ayant pas du tout de tradition religieuse, font le bien et sèment la paix, sont artisans de paix là où ils sont, par exemple, expriment l'amour, sont pleins d'empathie et de compassion, pardonnent à leurs ennemis. Alors, nous, quand on voit ça, et c'est important qu'on puisse le dire, quand on voit ça, on va dire à la personne: ce que tu fais pour moi comme croyant, c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit en toi. Maintenant, quelle est la différence entre le fait de faire le bien parce qu'on est croyant et le fait de faire le bien tout simplement parce qu'on est humain, et que la charité, disait Peggy dans ses œuvres, la charité nous est presque connaturelle. On voit quelqu'un qui tombe, qui ne va pas se précipiter pour ramasser une personne âgée, handicapée, etc. On s'arrête, on voit un accident, on s'arrête. C'est même puni par la loi, non-assistance à personne en danger. Parce que humainement, notre cœur nous pousse à aller à la rencontre du prochain, et du prochain plus en difficulté. Mais quelle est la différence si ce geste-là, je le pose au nom de ma foi en Jésus, et si ce geste-là, je le pose simplement parce que je suis de nature humaine? Extérieurement, c'est le même geste. Donner à manger, vêtir ceux qui sont nus, visiter les prisonniers, etc., n'est pas l'apanage des croyants. La différence, je trouve qu'elle est pas tant dans la réalisation extérieure du geste que dans sa signification ultime. pour nous, chrétiens, disciples de Jésus, lorsque nous accomplissons des œuvres de miséricorde, nous le faisons en prenant conscience que nous nous adressons à la personne du Christ et que nos actes retentissent dans l'éternité. C'est pas pareil. Nous croyons, et nous avons cette certitude, ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, que nos actes d'amour désintéressés retentissent dans l'au-delà. Et donc, quand on fait un acte d'amour désintéressé, quand on pardonne, quand on va se porter au secours de l'affligé, quand on est dans une compassion, lorsqu'on est dans un soutien mutuel, et aussi lorsqu'on refuse de céder à la critique et au mal, nous croyons qu'il y a quelque chose du royaume de Dieu qui se donne. Et c'est vrai que dans ce cas-là, je trouve que c'est plus facile de persévérer parce qu'on a une grande espérance qui nous habite. Parce que cette espérance, elle a à voir avec la vie éternelle. Et lorsque on fait le bien sans la dimension de la foi, le risque, je ne dis pas que ça arrive toujours, mais le risque, c'est le découragement. Le découragement parce que on n'a que cet horizon humain comme horizon ultime, on n'a pas la foi en Dieu, en la vie éternelle, et donc on souhaite aussi que ce bonheur soit aussi sur cette terre et de voir les fruits de nos actions. Or, lorsqu'on est au service des plus démunis, lorsqu'on fait le bien, etc., auprès de personnes en difficulté, on ne voit pas toujours le fruit de ces actions. Pendant des années, quand j'étais en ministère en Argentine, j'étais aumônier de prison. Et parmi les laïcs qui formaient la pastorale des prisons, j'ai vu des gens qui étaient baptisés, croyants, etc., mais qui se lassaient, qui se décourageaient, parce qu'ils pensaient que les gens allaient s'améliorer, qu'il y allait avoir des conversions à foison, que quelque part, ils allaient être plus récompensés des actes qu'ils ont posés que ce qu'ils n'ont vu eux-mêmes. Et lorsqu'on va à la rencontre, en tout cas, des prisonniers, on va à la rencontre parfois de personnes qui sont dans une grande violence. Je me rappelle d'un en particulier, il m'insultait du plus loin qu'il me voyait. Il m'insultait, il éructait contre moi. Il y a une telle violence à l'intérieur. Mais du coup, quand on n'a pas cette dimension transcendante de dire « j'accueille cette violence-là, mais je ne l'accueille pas parce que je découvre justement que je l'accueille parce qu'elle n'est pas contre moi. C'est une violence des jours sans amour, du manque de soins, une violence qui vient de l'enfant, pratiquement de la petite enfance. Mais parce que j'ai confiance aussi que lorsque je porte aussi quelque chose de la souffrance de cet homme qui crie, c'est le Christ lui-même que je suis. Mais si j'ai pas ça, c'est plus facile de se décourager. Et j'ai vu des personnes qui pourtant étaient croyantes, etc., mais qui n'ont pas pris conscience que faire le bien dans la durée, sans voir forcément les résultats, eh bien, c'est quelque chose qui est une grâce, qui dépasse notre simple limite humaine. Oui, nous nous réjouissons de voir ceux qui font le bien partout dans le monde et nous les encourageons, mais comme chrétiens, parce que nous participons à la croix du Christ, parce que nous avons cette vision que le crucifié vient rejoindre chacun dans sa détresse et dans son impuissance, il vient de rejoindre aussi celui qui fait le bien et qui ne voit pas beaucoup de changements autour de lui. Et c'est ce que dit saint Paul quand il dit « Ne vous lassez pas de faire le bien », signe que faire le bien lasse, parce que où se trouve le changement ? Et le pape Benoît XVI, dans sa très belle encyclique sur l'espérance, dit « si je ne suis pas porté par la grande espérance, c'est-à-dire l'espérance dans la vie éternelle, eh bien je me rends compte que enlever le mal, enlever la souffrance, enlever ce qui peut être toute limite pour l'homme de ce monde n'est pas possible. Je veux dire, n'est pas possible, et j'allais dire, n'est même pas chrétien. Notre but n'est pas d'enlever toute souffrance de ce monde. Notre but, c'est de dire, cette souffrance, elle est habitée. Et ça, c'est pas pareil. Elle est habitée. Comme est habité celui aussi qui va à la rencontre de la personne en souffrance, crucifiée d'une manière ou d'une autre, il est habité par une espérance qui va au-delà de ce qu'il peut voir des transformations. Nous sommes appelés non pas à être une solution, nous sommes appelés juste à être un signe. Un signe, pas une solution. Être signe, ça veut dire être sacrement. C'est le même nom, c'est synonyme. Qu'est-ce qu'est le sacrement de l'Eucharistie, sinon le signe visible de l'amour du Seigneur qui s'offre sous les espèces du pain et du vin, signe de sa croix et de sa résurrection. Et parce que j'accepte d'être signe, et comme tout signe, ça, comme tout sacrement aussi, c'est l'expérience d'un dépouillement, je vais pouvoir petit à petit persévérer. Parce que je prends conscience que même s'il n'y a pas beaucoup de changements, même si Jésus n'a pas guéri tous les malades, n'a pas ressuscité tous les morts, etc., même si ça, le fait d'être un signe dans le monde, d'une bonne nouvelle, que l'on peut aimer malgré tout, eh bien ça c'est énorme. Mais vous comprenez, comment on peut dire, les chrétiens n'ont pas l'exclusivité. Ils ont la responsabilité. C'est pas pareil. Ils ont la responsabilité de faire de ce monde un monde plus lumineux et fraternel, tout en sachant que enlever le poids de la faute, du péché et de la mort de ce monde n'est pas en notre pouvoir. Au Brésil, où j'ai été pendant un temps aussi, il y a une secte, la secte du règne universel de Dieu, qui est très puissante. Le maire de Rio de Janeiro appartient à cette secte, dont la devise est « arrêter de souffrir ». Vous imaginez une devise pareille au Brésil, pays qui se relève petit à petit, mais qui est dans une grande détresse matérielle, de santé, d'analphabétisme, voire d'une certaine misère. Arrêter de souffrir. Et du coup, on présente un homme qui était des favelas, et il a adhéré à cette église du règne universel de Dieu, et maintenant il roule en Mercedes. Voilà Dieu à l'action. Eh bien, nous disons, cette personne-là n'est pas disciple de Jésus. Point. Être chrétien, c'est pas être ça. Nous n'avons pas la prétention d'éliminer tout ce qui est le pouvoir de la faute et du mal. Oui, nous allons à la rencontre des plus démunis, et l'Église, de son commencement, est allée aux marges de l'humanité, tout en sachant qu'elle est qu'un signe, tout en sachant qu'elle est très pauvre. Et quand on se met à l'école des pauvres, c'est d'abord prendre conscience soi-même de sa propre vulnérabilité et de sa propre fragilité. Sinon, on est comme au-dessus, comme un certain orgueil voulant faire la charité. Bien, nous croyons que quand on est auprès du Seigneur et quand on contemple sa croix, ça nous donne des forces pour aller à la rencontre des plus démunis. Ça nous donne des forces pour ne pas nous lasser. Peut-être nous ne sommes pas appelés à faire des grandes œuvres telles Mère Teresa, certainement, mais faire le bien, ne serait-ce que dans nos familles, dans nos milieux professionnels, ce n'est pas si simple. Les tensions familiales, les incompréhensions, les brouilles, les manques d'amour, etc. Et de dire, je choisis quand même d'aimer quelle que soit la circonstance. Eh bien, ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Je ne céderai pas à la violence qui m'habite. Nous avons tous un océan de violence en nous. Tous. On apprend par l'éducation à la canaliser, cet océan. Mais sans céder à la violence qui m'habite, sans céder à la critique, sans me mettre du côté des railleurs, eh bien, je veux choisir d'aimer. Ça, c'est être disciple de Jésus. Et le Seigneur poursuit, attention, attention au scandale. Attention de ne pas décourager les autres, d'être une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi. Attention de ne pas se croire parce que nous sommes disciples du Christ meilleurs que ceux qui font le bien. Nous avons plus de responsabilités que tout autre, parce que nous connaissons davantage. Et plus on connaît Dieu, plus on sent qu'il y a comme une impérieuse nécessité de répondre à son appel. Plus il nous sera demandé. Donc oui, le fait de rentrer dans cette logique d'accueillir que l'autre fasse du bien demande une sorte de désappropriation de soi-même. C'est dit avec des mots forts, c'est la méthode rabbinique. Hein, si ton bras t'entraîne au péché, arrache-le, ton œil arrache-le, etc. Tu ne rentreras pas quelque part. Nous ne sortirons pas indemnes de cette aventure. C'est ça que ça veut dire. Nous ne sortirons pas indemnes de cette aventure, de l'aventure d'un amour jusqu'au bout. Nous en sortirons blessés. Mais le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et c'est bien avec ses blessures que le Christ est ressuscité. Alors, oui, frères et sœurs bien-aimés, comme il est important de nous rappeler ces choses simples que vous connaissez déjà, que nous connaissons tous, mais que nous avons tellement tendance à oublier, c'est pour ça que nous venons au pied de l'autel pour supplier la grâce, pour supplier la grâce d'être signe, pour supplier la force d'être juste une présence, de renoncer même à une solution efficace. Les pauvres, vous les aurez toujours, nous dit Jésus. Moi, vous ne m'aurez pas toujours. Alors, quand on vient à la messe, on vient comme des pauvres, suppliant la grâce, suppliant le fait de ne pas nous décourager dans nos diverses adversités que nous pouvons traverser, de demander au Seigneur un cœur nouveau, qu'il enlève de notre cœur le cœur de pierre et qu'il nous donne d'être les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.